Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Canu, le 102.2, et maintenant c'est le début d'Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours Radio Canu, c'est le début d'Idées Noires. Tu t'entends mal? Allô, attends, deux secondes, allons-y, ça devrait être mieux là.
Ouais, c'est beaucoup mieux, merci.
Tout de suite, quand on ouvre le micro, ça marche bien. Hein.
Merci pour la censure. Avant peut-être les annonces, on n'a pas parlé, mais peut-être qu'on pourrait du coup remercier tout le monde qui est venu du coup à la soirée vendredi soir, là, pour la soirée de réouverture, entre guillemets, officielle de la Plume Noire suite aux travaux.
Merci à toutes et à tous.
Donc voilà, il y a eu pas mal de monde, c'était cool. Enfin, on remercie aussi du coup les féminés qui sont venus jouer pour l'occasion. Voilà, c'était la deuxième fois qu'elles venaient. Voilà.
C'était vachement cool.
C'était vraiment bien. Voilà, il y avait vraiment du monde. Donc on remercie tout le monde pour cette belle soirée. Et puis du coup, on en fera d'autres, hein, maintenant que le local est bien adapté pour cela. On part pour les annonces du coup. Les annonces, moi j'en ai une, c'est pas ce samedi, c'est samedi prochain, mais on commence déjà un petit peu, on en reparlera la semaine prochaine pour en redire un mot, mais du coup ça va se passer à la librairie Terre des Livres, hein, qui est située au 86 rue de Marseille, dans le 7e, donc ce sera le samedi 22 à 15h, du coup avec comme invité exceptionnel, du coup l'autrice Lizzie Krodager pour son dernier livre « Enfants de Mars et de Vénus ». Voilà, si vous connaissez pas, bah, passez faire un petit tour à la Plume, voilà, on a quelques-uns de ses ouvrages, et donc voilà. Puis on fera sûrement du coup un truc un peu plus tard dans l'année avec elle aussi à la Plume Noire. Donc voilà, et ce sera en plus à écouter, attention, hein, sur Radio Canu aussi. Donc voilà, donc à Terre des Livres le 22 avril.
Donc oui, moi aussi j'ai une petite annonce. Donc le lundi 17 avril, le Front National tiendra un meeting à Paris, donc au Zénith, porte de la Villette. Donc nous tenons à nous opposer à cet événement qui s'annonce comme un épisode important de la grande mascarade des élections présidentielles 2017. Bien que cherchant comme se représenter comme un parti anti-système, le FN apparaît aujourd'hui comme un des piliers du spectacle politique institutionnel de la corruption de la classe politique et de la restructuration néolibérale et autoritaire à laquelle on assiste en France comme dans l'ensemble du monde occidental. Donc il y a manifestation ce dimanche 16 avril au départ d'Aubervilliers, 4 chemins, et à 14h contre le meeting du Front National, et le lendemain, donc le jour du meeting, il y aura une journée d'action. Donc c'est sur Paris ce week-end.
Ok, je crois que c'était tout ce qu'on avait pour les annonces, donc on va démarrer avec le premier sujet. Le premier truc dont on voulait vous parler aujourd'hui, bah, vous l'avez peut-être vu sur le net, en tout cas si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invite à aller voir bah, soit sur les réseaux sociaux, soit sur notre site, soit sur Rebellion, voilà, avec la sortie la semaine dernière d'une cartographie qui a été faite en collaboration avec le collectif Vigilance 69, donc nous et le collectif Vigilance. Cette cartographie, bah, c'est celle de l'extrême droite lyonnaise. Ça fait un petit moment qu'on avait ce projet-là. Histoire de faire un truc assez parlant pour tout le monde, pour voir un petit peu le degré d'implantation des différents groupes fascistes sur Lyon. Voilà, leur mode d'invasion un petit peu du quartier du 5e arrondissement et les sorties ensuite qu'ils peuvent faire un peu ailleurs en ville. Voilà, le but hein, de cette cartographie, c'est toujours le même, hein, c'est comprendre et connaître pour mieux lutter. Donc voilà, on va en dire deux mots. Donc voilà, enfin vous irez voir sur la cartographie, du coup vous pouvez retrouver un peu tous les locaux qui existent sur Lyon, que ce soit les locaux officiels, donc ça veut dire voilà, par exemple la Traboule pour les identitaires, la Maison Bleue pour le Parti National Français, le Pavillon Noir pour le GUD, le local de l'Action Française, celui du Front National, mais aussi du coup les magasins un peu qui font tourner la boutique, enfin qui font pas mal de sous pour ces différents groupuscules, notamment un magasin de vêtements et de tatouages, donc on vous déconseille fortement du côté de Saint-Paul. Donc voilà, et au verso de cette cartographie, ce qu'on voulait faire aussi pour expliquer aux gens, parce que le but, voilà, c'est pas juste de faire une carto et puis de la laisser au local ou à laisser sur net, mais c'est vraiment du coup faire un gros travail de sensibilisation et notamment pour les habitantes et habitants de cet arrondissement-là, voilà, qui subissent de plus en plus voilà, la présence des fascistes. Alors c'est vrai qu'au début, bon, ils avaient leurs locaux, ils se tenaient un petit peu tranquilles, hein, mais maintenant voilà, il y a de plus en plus de collages, de coups de pression qui sont mis sur les personnes qui osent parler contre elles. Il y a eu notamment un article sur rue 89 Lyon qui faisait un petit peu le résumé de tout ça. Hein, c'est un article qui avait déjà... Il y avait déjà une première partie, enfin, ça c'est saison 2, hein, c'était Le violon ne veut pas devenir Facholand. Et déjà, voilà, avec les groupes installés et leurs actions, et voilà. Et donc, c'est vrai que depuis quelques temps, ça s'est un peu empiré, hein, avec l'ouverture de nouveaux locaux, des problèmes à la Maison des Passages, des problèmes à la MJC du Vieux Lyon, voilà, et des problèmes un peu partout dans le quartier. Donc, voilà, juste pour faire un petit détail, parce que c'est ce qu'on voulait faire sur le verso de la cartographie, c'était aussi, du coup, de rappeler un peu, mais très brièvement, hein, après, on pourra le faire peut-être sur une réunion publique plus tard, voilà, vraiment l'origine de tout ces groupes-là, voilà, était toujours important de rappeler d'où viennent les identitaires. Ils sont pas venus comme ça, ils sont pas nés comme ça d'un coup d'un seul, parce que du coup les fondateurs, on entend les deux fondateurs qui de ce groupe-là, voilà, ils sont issus d'un groupe qui a été dissous. C'était Unité Radicale. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était l'autre timbré qui avait essayé de tirer la carabine sur Jacques Chirac lors d'un défilé du 14 juillet. Maxime Brunnery, voilà, mais du coup c'était un truc à plomb, hein, voilà, hein, il était complètement raté, le brave gars. Donc lui, il faisait partie de ce truc Unité Radicale. Donc ça a été dissous, comme pas mal de groupes. On voit comment ça aide, hein, parce que un an après, bah, naissaient les Jeunesses Identitaires, puis les identitaires, puis le bloc identitaire qui leur sert de paravent politique. Donc voilà, donc Génération Identitaire qui a donc son siège local national sur Lyon, donc à la Traboule. Donc c'est la branche jeunesse de ce bloc identitaire là.
Ouais, le bloc identitaire, c'est important de rappeler qu'ils sont aussi fortement implantés dans toute l'Europe en fait, c'est pas qu'en France.
Oui, 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 en tout cas c'est ce qu'ils voudraient.
Ils sont aussi très puissants par exemple en Autriche, où on les voit depuis quelques temps très actifs.
En tout cas, ils essaient de garder ce truc-là parce que vous devinez pourquoi ils militent, pour ces braves gens, bah voilà, pour la sauvegarde d'une civilisation chrétienne et européenne, voilà, et menacée sur nous par quoi, bah comme d'hab, par l'immigration et par l'islam. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce qu'on a mis un petit peu sur la cartographie, c'est les condamnations, parce qu'il y en a eu plusieurs. Alors là, vous pouvez vous référencer à d'anciens dossiers qui avaient été faits quand on faisait encore partie du collectif Vigilance 69. Voilà, pour des faits de violence, les nombreux contrôles judiciaires qu'ils ont. Donc l'ouverture de ce siège social en fait de Génération Identitaire, ça date de 2011. Il était ouvert un petit peu avant officieusement, puis officiellement en 2011. Et donc depuis peu, ce groupe du coup a ouvert une salle de sport, donc pour les patriotes, les identitaires, les nationalistes. Voilà, du coup, hein, c'est à deux pas de la Traboule, hein, c'est juste en dessous. Et bah, cette salle va servir donc de base pour former les nationalistes au combat de rue et pouvoir faire des petites virées nocturnes et tabasser un peu ce qu'ils veulent. Sur cette carte-là, on voulait pas oublier non plus le Front National, parce que du coup, c'est quand même la base de tout, qui a son siège départemental à Perrache. Et on aimait bien rappeler, comme c'est le cas beaucoup en ce moment, bah, que le FN a rassemblé à l'origine, hein, des néo-fascistes d'ordre nouveau, des anciens de la collaboration, des soldats perdus de l'OAS, des nationalistes révolutionnaires et des poujadistes. Voilà. Et il existe de plus en plus de liens maintenant avoués, hein, entre notamment Génération Dictaire et le Front National. Mais les autres s'en réclament toujours un petit peu. Hein, de toute façon, quand ils tweetent, hein, il y a toujours un petit mot au moins pour Jean-Marie Le Pen. Voilà. Puis là, on était plutôt pas mal. C'était du coup pour la localisation de ce local du GUD, hein, c'est 28 mois qui sont ouverts depuis le 1er octobre 2016 et le lieu restait toujours inconnu. Donc voilà, vous irez voir sur la carto un autre endroit à éviter, puis un travail à faire aussi du coup auprès des personnes qui vivent là-bas. Voilà, ce local du GUL, le pavillon noir, voilà, qui est situé vers Saint-Ju. Voilà, les deux magasins, les amis aussi. Le local du PNF qui est plutôt en sommeil, hein, la maison bleue qui est rue Saint-Jean. Donc on voulait le mettre aussi avec dans le bar du coup, dans la même rue, pardon, un bar sympathisant. Et enfin le local de l'Action française qui s'est réactualisé sur Lyon depuis quelques années. Voilà, qui ont aussi un local officiel du côté de Perrache.
Autant si le local du PNF est pas très actif, le PNF en lui-même l'est quand même.
Oui, c'est pas. Donc voilà, donc la carto est trouvable sur internet, faut pas hésiter à la faire passer de tous les côtés à vos proches, vos amis, au boulot, à votre syndicat, voilà, pour que l'info passe un maximum. Mais après, évidemment, bah, le but, voilà, c'est que la population se réveille un petit peu sur cette implantation dans ce quartier. Et je voulais juste enchaîner, mais là ça va être très rapide, après je laisse la parole. C'était du coup sur notamment ce qui s'est passé, bah, c'était la semaine dernière, voilà, quand notamment Marine Le Pen a nié la responsabilité de la France, donc du coup dans la rafle du Veldiv, hein, vous l'avez sûrement entendu parler, en disant que c'était les gens qui étaient au pouvoir à l'époque qui sont responsables et pas la France. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil, voilà, pour son électorat Voilà, plus traditionnaliste et négationniste aussi là-dessus. Voilà, et elle aime bien voilà jeter des petits clins d'œil comme ça. C'est pas souvent, ça se voit pas forcément. Il y a eu un reportage qui est passé il y a pas si longtemps que ça, peut-être le retrouver, qui s'appelait Le sens des mots. Du coup, il y avait un décryptage un petit peu du vocabulaire utilisé par Marine Le Pen et par son père pour faire un lien un petit peu entre les deux, en voyant du coup que c'était pas les mêmes mots qu'ils utilisaient, mais en tout cas ça avait le même sens. Hein, il y avait un petit changement au niveau de la sémantique, mais au bout du compte, ça voulait dire la même chose. Et surtout, il y avait toujours ces petits clins d'œil qui étaient faits aux plus nationalistes, aux plus réactionnaires. Et voilà. Et notamment, un des trucs qui avait été fait, c'est qu'elle avait cité à un moment donné un livre qui était, donc il me semble que c'est un livre de Jean Raspail, donc qui est un vieux livre, hein, du coup, qui traite d'une invasion et comment fallait se défendre contre l'invasion. Ça reprend un petit peu les thématiques qui sont utilisées aujourd'hui. Et voilà. Et ça révèle généralement la fibre bien nationaliste, violente, voilà, de cet électorat qui est caché, hein, qui essaie de cacher, mais qui est toujours présent. Et ce même livre, sur une autre interview, bah, l'a bien mis en évidence sur sa bibliothèque. Voilà, donc c'est les petits clins d'œil qui sont envoyés. Et puis je trouve un article, voilà, je vais pas vous le lire, mais voilà, qui rappelait un petit peu que bah, dans la rave du Veldiv, il y avait notamment l'ancien numéro 2 du Front National, hein, Victor Barthélémy, qui avait été à l'origine du Front National. Et un autre documentaire qui avait été passé aussi, parce qu'il y a eu il y a toujours de la purge au Front National, parce que dès qu'il y en a qui dérape, ils essaient de cacher les trucs, hein, mais voilà, ils essayent vraiment de balayer tout ça, hein, quand ça devient officiel, en tout cas, franchement, ils se le gardent bien de le dire, vous pensez bien. Et voilà, un autre reportage qui est passé au mois de mars en caméra cachée. Donc là, c'est un journaliste qui avait essayé d'enquêter dans le sud, dans la région PACA, notamment sur les liens, voilà, avec Marion Maréchal Le Pen et les groupes identitaires. Et donc, du coup, forcément, il y avait aucune réponse. Et ben lui, bah, il y avait été en caméra cachée pendant 2 mois pour voir un petit peu ce qui se passait. Et ben, ce qui en ressort, c'est quand même pas mal. Voilà, je vous donne un petit exemple. Hein, Benoît Leuillet, hein, qui donc a été suspendu depuis, hein, forcément, qui était conseiller régional FN de PACA, responsable du parti à Nice, quand même, hein, identitaire local bien connu. Voilà, et dans sa librairie, hein, du Paillon, bah, il vend quoi, bah, des ouvrages d'Adolf Hitler et de l'historien négationniste Robert Forisson, par exemple. Et voilà, il reconnaît officiellement, avec ses petites caméras cachées, s'interroger sur les thèses de ce dernier et assure à propos de la Shoah qu'il n'y a pas eu de mort de masse, comme ça a été dit, hein, il n'y en a pas eu 6 millions. Voilà, donc il a été suspendu, mais bon, voilà, ça empêche que si le journaliste n'était pas venu avec sa petite caméra cachée, bah, le gars, il serait resté un long moment, je pense, au Front National. Voilà, Philippe Bardon, bien connu, hein, fondateur du bloc identitaire, lui, qui est conseiller régional FN de PACA depuis peu et homme clé de l'équipe de campagne de présidentielle de Marine Le Pen. Voilà, quand il traque, bah, il dit, ah bah, ça va devenir inquiétant ici, hein, tous les mecs qui me serrent la main, ils sont noirs. Voilà, ici les taxis, c'est très blanc, très niçois, etc. Alors qu'à Paris, qu'à Lyon, la moitié, ils ont les barbes comme ça. Donc voilà, et bah, par contre, lui, il y est toujours, hein, au Front National, ce Philippe Bardon. Philippe Bardon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez chercher un petit peu, hein, il y a des textes qui sont réflexes, notamment, il me semble, voilà, c'est vraiment le fondateur du bloc identitaire et sur des actions très, très, très violentes. Ah. Donc voilà pour ces petites pages qui étaient sur la cartographie et sur les petits liens avec le FN. Et on passe à la suite.
On va enchaîner, ouais, avec un peu d'actu sur la Tchétchénie.
Ouais, alors du coup, récemment, il y a eu, enfin, ça fait un plus ou moins gros buzz sur Internet au sujet d'un camp pas de concentration, mais
ça y ressemble beaucoup.
Il réprime les homosexuels, donc du coup, je vais vous lire l'article, pardon, désolé. 1, 2, 3, vous lire l'article, comme ça ce sera plus clair, tout est précisé dedans. Alors, dernièrement, la République de Tchétchénie, enfin, République entre guillemets, dont le président, entre guillemets, Ramzan Kadyrov, est un fervent soutien de Vladimir Poutine, est soupçonné d'avoir arrêté, torturé, voire dans certains cas tué plus de 100 personnes soupçonnées d'homosexualité, réelle ou supposée. Selon le journal indépendant Novaya Gazeta, une chasse à l'homme aurait débuté en début d'année et qui se terminerait parfois dans le meurtre. Ce journal, réputé pour ses investigations, se dit être en mesure de donner l'identité de 3 victimes assassinées par les autorités tchétchènes à cause de leur orientation sexuelle et craint des chiffres bien plus élevés. Pour donner un peu l'ambiance répugnante là-bas, voici les propos haineux qu'a tenu Keda Saratova, une activiste tchétchène à la tête du Conseil des droits de l'homme de Kadyrov, interrogée à ce sujet par une radio russe. Je n'ai eu aucune demande quant à cette question, et si cela avait été le cas, pardon, je ne l'aurais pas considéré. Dans notre société tchétchène, toute personne qui respecte nos traditions et notre culture traquera ce type de personne sans avoir besoin de l'aide des autorités et emploiera tous les moyens nécessaires pour que ce type de personne n'existe pas dans notre société. Après le premier article du quotidien début avril, les premiers témoignages et photos des rescapés commencent à sortir. Deux Tchétchènes, identifiés comme témoin 1 et témoin 2 par le journal, et depuis placés hors de danger, racontent photos de leurs blessures à l'appui, comment ils ont été régulièrement frappés, humiliés et torturés par électrocution par les forces de l'ordre. Ils parlent aussi d'hommes battus à mort sous leurs yeux et de prisonniers enfermés depuis plusieurs années. Leur objectif principal était de pourchasser nos contacts car dans leur tête, si tu es suspecté d'être gay, alors tout ton réseau de contacts est gay. Ils gardaient nos téléphones allumés. N'importe quel homme qui appelait ou envoyait un message était une nouvelle cible. Toujours d'après Le Quotidien, les hommes interpellés dans ces circonstances seraient détenus dans une prison secrète de Tchétchénie, un ancien quartier militaire officiellement vide qui se situe à Rian, près de Grozny, dans la capitale. Argun, du coup, j'imagine. De leur côté, les autorités tchétchènes ont tourné en dérision et nié ces accusations, prétendant que le pays était innocent puisque vierge de toute homosexualité, et justifiant même la violence perpétrée contre les homosexuels. Amnesty International, ILGA Europe, le département d'État américain et le Parlement européen réclament l'ouverture d'une enquête. Nous souhaitions informer et partager notre indignation face à cette intolérance, ces actes de torture et ces arrestations arbitraires. Toute notre solidarité aux homosexuels tchétchènes et russes. Et du coup, à la fin de l'article qui est sorti du coup via le planning familial de Lyon, on peut, vous pouvez exprimer votre solidarité en signant une pétition qui est sur internet. Donc, je pense que vous pourrez la trouver sur le site du planning familial et en mettant sur les réseaux sociaux la photo de Vladimir Poutine qui a été modifiée. Du coup, on voit sa tête sur un drapeau LGBT qui est maquillé, tout ça,
avec un maquillage en queer.
Voilà, avec stop homophobia. Donc voilà, c'est la petite ambiance.
L'affaire vient de sortir, enfin du coup on en apprend un petit peu maintenant, mais a priori ça date depuis un moment, et on risque du coup, à mon avis, de s'alourdir au niveau du bilan, enfin on va en savoir beaucoup plus dans pas longtemps, et voilà, ça risque d'être beaucoup plus important que ce qu'on a déjà sur l'article, qui est déjà assez grave. Donc voilà, on suivra ça de près aussi. Je me rappelle plus ce qu'on avait derrière.
Eh ben derrière, on a une première petite pause musicale, première et peut-être unique, hein, on verra, avec Ridan et la chanson s'appelle Le Mensonger. C'est parti.
Qui sont ces hommes, ces comédiens qui veulent la peau de mon citoyen, fièrement acquis par notre histoire, par nos défaites et nos victoires. J'ai honte. Pour faire valser le cœur de la reine, il faut bien sûr charmer la reine, mais tous jureront de leurs mensonges, de leurs promesses, de leurs jurons. J'ai honte. Comme ils sont beaux ces prétendants, quand ils s'engagent si sobrement, dans leurs costumes fraîchement taillés, quel simulacre cette vérité. J'ai honte. Le geste souverain, la main de fer, mais au fond d'eux ne savent que faire de ces gens-là qui désespèrent, qui placent leurs rêves signe pied sous terre. J'ai honte. Quant aux affaires, je vous laisse seul juge, il y a des peines qu'il faut qu'on purge. À la santé de la République, il y a ces hommes qui se font du fric. J'ai honte. Puis on efface et on recommence les mêmes arnaques, les manigances, les mêmes trafics qu'on influence. Quel abandon, ma douce France. J'ai honte. J'ai pas d'amour pour ces gens-là, dites-leur à tous que j'ai dit cela, à ceux qui jurent de marcher droit dans la pénombre de leur foi. Quelle honte.
Bon, rebonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canu, sur le 102.2, aux Idées Noires, l'émission de la CGA. Maintenant, on va enchaîner avec les luttes sociales.
Tout à fait.
Eh bien, puisque tu me donnes l'autorisation. Allez, c'est parti pour cette fin mars. Hein, le mois de mars étant terminé, on va attaquer le mois d'avril un peu plus tard. Et donc, c'était au 30 mars avec 2 jours de grève. Donc, de la part des salariés des wagons bars TGV de la SNCF et du prestataire qui en a donc la gestion, Newrest, pour pas le nommer. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, des améliorations des conditions de travail, hein, toujours. Une hausse décente de leur salaire. Alors, il y avait quand même une participation assez importante de 100%, paraît-il, selon la CFDT, la CGT Sud et FO, qui formaient l'intersyndicale. Et puis aussi des assemblées générales pour continuer ou pas. Enfin, bon, voilà. Donc, il y avait d'autres revendications. Le management, par exemple, qui était fortement critiqué. La répression, effectivement, aussi, qui était en place. Bref, tout le panel que l'on retrouve aujourd'hui, un peu partout dans ces luttes sociales sur le travail. 0,93% proposé par Newrest, c'était pour les augmentations de salaire, alors que l'intersyndicale exigeait 0,7% pour les cadres et 1,4% pour le reste, évidemment, des grévistes. Le groupe aligne quand même, le groupe Newrest aligne un chiffre d'affaires à plus 13%. C'est pas rien. Maintenant, des personnels administratifs, maintenant du CHU de Grenoble avec le syndicat Sud Santé, c'était le 31 mars, pour un effectif plus important, pour assurer l'accueil, les entrées, les sorties, etc. Donc, des conditions encore là de travail dégradées. Burnout à la clé pour tout le personnel, qu'il soit administratif ou hospitalier. Des conducteurs de bus aussi mécontents cette fois. Donc c'était la fin mars également, et qui concerne le Nord-Isère et le réseau Ruban. Et des arrêts du travail en journée avec la CFDT pour syndicat dans cette entreprise. La direction là aussi reste muette. Le dialogue social s'est jeté aux orties. Repris cette société par Keolis en 2016 et avec des salaires en dessous du seuil national et des conditions de travail toujours mauvaises. Cela dure depuis janvier. La direction nie les réalités de terrain qui sont vécues par les travailleurs. La grève perlée devait se poursuivre à cette date. 3000 passagers sur le réseau Ruban, quand même, c'est pas rien, qui assure donc le transport en ville, enfin l'urbain, transport urbain et périurbain, ainsi que les transports scolaires. À Montluçon, c'est des débrayages d'une heure chez AMI, parce que pas d'entente entre la direction et les représentants du personnel, donc on arrête tout. Proposition de la direction qui sont prises par les grévistes comme des provocations, puisqu'on leur proposait 0,6% puis 0,7% pour les salaires dans le cadre des NAO. Des négociations annuelles obligatoires. Auparavant, c'était 7 euros qui avaient été proposés. Donc les grévistes, eux, exigent 70%, ça n'a rien à voir. Prime de panier de nuit à plus 10%. Prise en charge de la mutuelle à 100%. Prise en charge du temps d'habillage et de déshabillage. Des débrayages donc d'une heure sont passés finalement à une grève totale qui a été reconduite et dénoncent également l'organisation qui est déficiente, le manque de formation, le nombre des accidents du travail qui augmente et tout ça donc aux amis, donc c'est des ateliers mécaniques industriels spécialisés. Le 30 mars également, avec 400 grévistes pour les salaires chez Nicole, c'est à Cholet, dans le Maine-et-Loire, leader en Europe dans les matériaux de synthèse pour les travaux publics. 2% a été souhaité par la CGT et 350 euros en abondement. La direction est tombée de l'armoire, mais n'avance rien pour le moment. Grève totale à cette date. Et toujours à Cholet, on y reste, donc avec la société AR Carton, c'est des grévistes qui ont repris le collier ici, après avoir grévé depuis le 22 mars. C'est la CGT qui est initiatrice ici de cette lutte. 100 personnes sur 200, c'est déjà pas mal, après avoir obtenu 1,6% sur les salaires. La suppression de l'horaire de pause, de repos, donc imposé. 100 euros versés nets pour chaque salarié par journée de grève, c'est pas mal non plus, je pense. Et donc, il y a eu la reprise de la production le 28 mars, ben, comme promis. Une grève qui a débuté aussi le 28 mars pour se terminer le 31. C'est à la Compagnie des fromages à Vire dans le Calvados avec la CGT et 1400 salariés de plusieurs sites comme à Coutances, à Ducey et aussi, pas qu'en Normandie d'ailleurs puisque c'est à Brioude, a pris fin donc ce 31 mars après des avancées, comme on dit aussi souvent, des garanties aussi pour l'évolution des salaires. Avancées certes, mais des concessions également, selon la CGT, sur notamment la pénibilité du travail, au travail, et deux points perdus pour les salaires, quand même. Avec pourtant 80% de grévistes, l'usine était bloquée, les usines étaient bloquées. Ça a été un petit peu plus faible sur d'autres sites, mais quand même, il y a eu des piquets sur d'autres. Donc, cette société, la Compagnie des fromages, n'est ni plus ni moins que la grosse société Richemont. Dans ce qui gêne les salariés, ben, c'est qu'en 2018, il y aura la mise en place d'une nouvelle grille salariale qui modifiera donc la grille en place actuellement. Trois syndicats, je dirais véreux, ont signé avec la direction. La CGT, ben, elle a dit non, comme d'habitude. Le mouvement a poussé un peu plus loin l'action en se posant devant Savencia, qui est une entreprise du même groupe et une plateforme de distribution. À signaler ici quand même que quelques heures entre grévistes et non-grévistes. À Marcoul, dans le Gard, c'est Areva Melox. Hormis une lutte pour les salaires, eh ben, cette lutte portait aussi sur la sécurité du site nucléaire, puisque la direction souhaite remettre cette activité à des sociétés sous-traitantes. Alors une peur s'est installée pour les travailleurs qui étaient sur place, à la fois pour les emplois et la bienveillance en termes de sécurité sur ce site. Ceci, donc, les travailleurs ont argumenté sur la situation en France, les attentats, l'insécurité. En fait, bref, ça fout la pétoche. Car la surveillance n'est pas uniquement des matières et activités nucléaires, mais aussi des personnels sur ce site et des entreprises extérieures. Le refus des grévistes est de voir des inconnus, entre guillemets, sur le site. Et la direction est soupçonnée de décision en catimini, puisque ça a été découvert, il a été découvert des offres d'emploi sur Internet. L'intersyndicale se défend de faire un procès d'intention aux salariés de ces sociétés donc sous-traitantes. Toutefois, il est signalé de possibles problèmes de communication. Selon la CFDT, la direction est épatée, comme toujours, de voir des piquets de grève s'installer. Rassure sur les emplois. Melox, pour en dire un peu plus sur cette entreprise, est une filiale en fait d'Areva et qui tripote des trucs du style plutonium, comme le MOX ou comme l'uranium, tout simplement, pour en tirer donc du combustible nucléaire de l'ordre de 120 tonnes par an, quand même. Voilà pour cette première page.
Merci. Je vais enchaîner rapidement par un communiqué du coup qui nous vient de la CGT du Val-de-Marne. Des suites de la grève qui avait été entamée par des travailleurs sans papiers du mine de Rungis. Au terme de 24 jours de grève, les 128 travailleurs sans papiers du mine de Rungis et la CGT du Val-de-Marne obtiennent les récépissés préfectoraux avec autorisation de travailler pour tous. Nous nous sommes mis en grève pour obtenir 128 autorisations de travail. Nous repartons avec 128 récépissés avec autorisation de travail délivrée par la préfecture et nous levons le piquet de grève comme nous nous y étions engagés, déclare sobrement Philippe Jaloustre, responsable de la commission travailleurs et travailleuses migrants et migrantes de la CGT 94 et Thierry Legueil, secrétaire général de l'Union locale CGT de Rungis. Donc ça a duré 24 jours fatigants d'occupation de nuit et jour, dans le hall de la Tour Sémaris, donc le siège administratif de la mine de Rungis. Mais satisfaits de l'issue de la lutte engagée le 16 mars dernier, les syndicalistes ont la victoire modeste. Et pour cause, alors que les pourparlers avec la préfecture et le ministère de l'Intérieur étaient bien engagés dès le premier jour de la mise en grève des 128 travailleurs sans papiers, Plusieurs employeurs récalcitrants, notamment l'entreprise de transport de Richebourg, qui rechignait à délivrer les CERFA pour 47 de ses employés, ont bien failli compromettre le processus de négociation entre la CGT et les services de l'État. A contrario, la plupart des diverses entreprises employant ces travailleurs ont elles aussi joué le jeu, se rendant spontanément sur le piquet de grève pour y déposer les formulaires CERFA, préalable nécessaire à la délivrance des fameux récépissés préfectoraux réclamés par la CGT. Je vais peut-être pas lire tout le communiqué, après ça revient un petit peu sur ce qui s'est passé, mais
on va peut-être... On avait déjà fait des points dans les émissions précédentes.
On a déjà un peu parlé. Et puis...
Alors c'est pas la mine, hein, c'est le mine.
Ah, oh, pardon.
C'est le marché d'intérêt national, pardon.
D'accord.
Voilà.
Je me fais reprendre.
Non, mais c'est pas une reprise, c'est une précision.
Quand on sait pas lire.
C'est pas la mine. On n'était pas à 400 mètres sous terre.
Alors... sur cette pause où je me fais attaquer de tous bords, hein, je propose qu'on enchaîne avec des informations de Jamais sans toi. Hein.
Donc voilà un article. Merci. Du collectif Jamais sans toi. Donc le maire de Vaux-en-Velin, donc Pierre Dussurgier, empêche la mise à l'abri pour la nuit d'enfants de moins de 5 ans. Donc quand la municipalité socialiste de Vaux s'empare de la question des enfants sans toit, elle envoie la police municipale interdire l'accès à un gymnase à 4 enfants de moins de 5 ans et refuse à leur trouver un logement d'urgence. Depuis le 10 mars, malgré nos demandes et relances des autorités compétentes, à l'école Grand Clément de Vaux-en-Velin, les enfants sont toujours à la rue. Nos demandes sont simples. Nous demandons de faire respecter la loi, le droit à l'hébergement et le code de l'action sociale des familles et des familles, ainsi que la Convention internationale des droits de l'enfant qui devrait leur assurer un logement. Devant l'absence de solution, nous, collectif Jamais sans toit de Grand Clément, avons décidé de mettre à l'abri les familles depuis le jeudi 6 avril au gymnase Paul Roux de 21h à 8h pour ne déranger ni les associations ni l'école utilisant le gymnase en journée. Hier soir, lundi 10 avril, à notre arrivée au gymnase, la police municipale a été appelée et mandatée par M. Dussurgier, maire de Vaux-en-Velin, et nous a signifié dès notre arrivée qu'ils ne nous seront pas passés. Devant la protestation des habitants et habitantes, parents, parentes et membres de l'école, et à la demande de celles et ceux, la police a appelé des personnes élues de la mairie afin que celles-ci répondent à nos questions. Donc, questions restées sans réponse depuis un mois déjà. Quelques minutes après, Madame Baoum, donc élue en charge de l'éducation, et Monsieur Kamassi, porte-parole de la mairie, sont venus nous signifier que les directives de la mairie étaient de refuser l'accès au gymnase ou à tout autre local municipal à ces familles. La mairie de Vaux-en-Velin ne fait pas appliquer la loi. Elle laisse donc 4 enfants de moins de 5 ans dormir dans la rue. La mairie de Vaux-en-Velin refuse de proposer une solution d'hébergement d'urgence à 2 familles. La mairie socialiste de Vaux-en-Velin n'applique pas les consignes d'Emmanuel Cosse, ministre du Logement, qui déclarait en novembre 2016 « Pour donner sens à la solidarité nationale, nous devons faire en sorte que toute personne en détresse se voit offrir une solution d'hébergement ou sans-abri, mal logé, migrant, nous devons offrir à chacun et chacune un accueil digne et humain. » La mairie de Vaux-en-Velin refuse donc d'utiliser son pouvoir d'ouvrir un établissement en cas d'urgence. À ce titre, Madame Baoum et Monsieur Kamassi nous ont clairement défini les cas d'urgence, et 4 enfants dormant dehors n'en font pas partie. La lutte de ces familles continue et nous organisons des actions qui nous semblent légitimes et qui permettront de mettre ces personnes à l'abri.
Merci, Mère Albert.
Là, c'est trop là-bas qui est perdu.
Ben non, moi je ne suis pas perdu, c'est vous qui m'avez l'air
c'est
perdu.
Vous qui avez le fil de l'émission.
Ah, parce que sans moi, du coup, finalement, hein, ouais. Malgré mes fautes de langage. Eh bien, je crois qu'on va parler d'un incendie dans un camp de migrantes et de migrants.
Ok, d'accord. Merci. Donc, du coup, c'est à moi.
De rien.
j'ai pris l'article texto sur le Parisien, mais bon, du coup, ça parle d'un incendie qui a ravagé un camp de migrants à la Grande Synthe, dans le Nord. Et du coup, il y a quand même pas mal de blessés, tout ça. Et bon, c'est pas le premier camp qui se retrouve en flammes, quoi. Du coup, je vais lire un extrait de l'article. Après une bagarre en fin de journée lundi, un incendie a ravagé le camp de migrants Grande Synthe Nord. Il y a au moins 21 blessés, un amas de cendres. Le préfet du Nord s'est rendu sur le site du camp de réfugiés de Grande Synthe tard lundi soir et a constaté les dégâts alors que l'incendie n'était toujours pas totalement maîtrisé. Il ne resterait qu'un amas de cendres. Il sera impossible de remettre des cabanons à la place de ceux qui existaient auparavant, a déclaré Michel Lalande. à ce que je peux voir par moi-même, tout a brûlé. Il reste une cuisine communautaire et le point d'information, mais il est impossible de parcourir tout le camp et donc de se faire une idée vraiment précise de l'étendue des dégâts. A témoigné de son côté lundi soir Olivier Carmel, directeur du cabinet du maire. Damien Caram. Du coup, Damien Caram, c'est le maire. Selon nos informations, 220 cabanons en dur ont été détruits sur les 290 qui composent le camp. C'est donc 75% des logements du camp de la Linière qui a été détruit. Bon, du coup...
Du coup, on se pose la question en fait, de ce qui va être fait, parce que pour le moment, je crois que la... ils hébergent quelques centaines de personnes pour le moment dans les gymnases, mais donc va se poser la question de ce camp qui avait été créé du coup pour accueillir des migrantes et des migrants, ce qui va se passer maintenant, où ils vont être logés à court et moyen terme, et, dans la même ville, dans quelles conditions, et ou de voir s'ils vont être dispatchés un peu comme ça avait été fait sur Calais. Enfin voilà, on va surveiller ça pour voir un petit peu aussi sur les conditions des personnes qui étaient là-bas.
Non, après, ça, c'est encore, mais j'ai un autre article. Enfin bref, du coup, je pense que même sur le long terme, la question se reposera en fonction de,
partout, ouais.
du résultat des élections, encore une fois. Donc voilà. Et ensuite, du coup, je vais enchaîner avec, avec un truc sur une agression transphobe devant le centre LGBT de Paris. Donc, une de plus. Donc du coup, c'était publié par, sur leur site internet, tout ça. Donc, c'est une militante de l'association nationale transgenre qui a été agressée devant le centre LGBT de Paris-Île-de-France. L'association fait part de son émotion et de sa colère. Émilie Dobby, bénévole et militante à l'association nationale transgenre, ANT, et membre du conseil d'administration du centre LGBT Paris 2e de France, a été violemment agressée par un motard devant le centre le jeudi 6 avril. Victime d'insultes à caractère transphobe et de coups violents entraînant plusieurs jours d'incapacité de travail, Émilie devra subir une intervention chirurgicale, nous apprend le centre LGBT dans un communiqué. Grâce à l'intervention rapide et bienveillante du personnel du bar Le Brelan, du coup juste à côté je pense, dont nous saluons la réactivité, l'agression a pu être stoppée. Le centre condamne cette agression, apporte son soutien à Émilie Dobby et fait part au passage de son émotion et de sa colère. L'association rappelle également que cette agression est loin d'être un cas isolé. Pas moins de 63 témoignages de transphobie ont été enregistrés par SOS Homophobie sur l'année 2016, faisant bien souvent état de violences physiques ou de menaces. La haine de l'autre et le sexisme nourrissent la transphobie, entraînant des discriminations, exclusions, invisibilité et violences envers les personnes trans.
Donc voilà, voilà. Il y avait aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était à Nantes, du coup, pareil, le local LGBT qui avait été de nouveau caillassé, bien comme il faut, c'était la deuxième fois en très peu de temps. Donc voilà, et tout en sachant voilà, qu'il y a il y a la Pride qui arrive, hein, comme tous les ans, et que sur Lyon, on se pose la question, comme l'année dernière,
du
trajet, voilà, avec l'année dernière des grosses pressions et une interdiction de passer du côté des quais de Saône et du côté de Saint-Jean. Donc voilà, on va voir un petit peu cette année comment ça va se passer, et voilà, si les trajets vont être réduits comme l'année dernière, etc., etc.
Alors on a un nouveau préfet, on va voir ce qui va décider.
Préfet qui...
qui nous vient tout droit de Nantes, oui.
Okay, oui, oui.
C'est un nouveau préfet, mais la préfecture n'a pas changé, et l'état d'esprit n'a pas changé.
Je pense pas non plus, lui, il a
un spécialiste de la bavure policière aussi.
Qui est pas mal, entre les expulsions et les répressions de manifs, il est pas mal, j'ai l'impression.
Pas mal. On verra bien. Alors là, on avait prévu une pause musicale éventuellement. Il nous reste 20 minutes, alors je ne sais pas ce que vous en pensez.
Si elle est prête, on peut y aller vite fait.
Elle est tout à fait prête. J'ai juste à la lancer. Du coup, on repart sur Ridad avec la chanson Le Manège en Santé cette fois-ci.
À la retraite, on ne bossera pas jusqu'à 100 ans. Que disent les vieux à la retraite? Même si les femmes vivent plus longtemps, on veut poser nos bagages. Un peu de respect pour notre grand âge, on veut poser nos bagages pour préparer l'ultime voyage.
Elle est de retour à la grève, ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève.
Les classes ouvrières, on en a marre de ces salaires. Que disent les classes ouvrières? On ne bossera pas au bout de la terre. On n'en peut plus de ces patrons qui veulent toujours plus de pognon. On n'en peut plus de ces patrons, ils finiront en saucisson.
Elle est de retour à la grève, ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève, on ne votera pas pour toi.
Que disent les gens?
jeunes en colère, nous le fardeau de la nation. Que disent les jeunes en colère, nous ferons la révolution. On veut des emplois pour les jeunes, diplômés ou non qualifiés. On veut des emplois pour les jeunes, de banlieue ou des beaux quartiers.
Elle est de retour à la grève, ton Nicoti, ton Nicota. Elle est de retour à la grève, on ne votera pas pour toi.
Que disent les gens sans papier? On nous maltraite dans vos églises. Que disent les gens sans papier? Nous ne voulons plus qu'on nous méprise. On doit pouvoir vivre ensemble, élever nos gosses dans vos écoles. On doit pouvoir vivre ensemble, mais nous ne sommes pas nés sur ce sol.
Elle est de retour à la grève, ton Nicoti, ton Nicota. Elle est de retour à la grève, on ne votera pas pour toi.
Forces de l'ordre,
on n'en peut plus, y a trop de manifs.
Que disent les forces de l'ordre?
Nous sommes en manque d'effectifs. Il nous faudrait plus de casques pour pouvoir faire bien notre travail. Il nous faudrait des matraques pour mettre la France sur les rails.
Elle est de retour à la grève, ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève, on ne votera pas pour toi.
Rebonsoir, c'est toujours Radio Canu, le 102.2 avec Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. On enchaîne avec une deuxième partie de lutte sociale.
Oui, et là, ça va concerner que des centres hospitaliers. Hein. Ils sont quasiment tous en grève, enfin bon, bref, partout quoi. Comme la Roche Blanche, c'est dans le Puy-de-Dôme, ça, avec la clinique de Lauzon. En ce début donc du mois d'avril, 100% de grévistes en cette clinique psychiatrique. Je disais donc à 100%, voilà, à un point que la direction a fait appel à des intérimaires, alors que les patients dans ces moments de lutte évidemment ne sont pas abandonnés évidemment. La grève a débuté le 29 mars et persisté le 3 avril. Alors là, il y a des revendications comme augmentation des salaires qui ont été gelés depuis 2012. Dénonce également le matériel vétuste et mal adapté, effectif en baisse, non remplacé et donc CQFD, ben, conditions de travail, etc. etc. Le centre hospitalier CHBA de Vannes, c'est le BA, ça veut dire, c'est pas le BABA hein, du métier, mais c'est Bretagne Atlantique. Grève fin mars avec les anesthésistes qui ont profité de l'inauguration d'un nouveau scanner pour dénoncer les conditions de travail. Un manque de personnel, précisément en radiologie, exige des manipulateurs, donc je parle du métier hein, plutôt, hein, en radiologie, en électro-radiologie médicale plus exactement. La CGT dénonce depuis des années les réunions qui ne donnent rien. Début mars, il y avait eu une première qui a vu les salariés anesthésistes gréver 59 minutes. Auparavant, c'était en février avec une grève qui a duré, avec les revendications remises au directeur du CHBA, également au maire de Vannes, qui est en même temps le président du conseil de surveillance, qui s'appelle Monsieur David Robot, et qui n'ont rien amené. Normal de discuter avec un robot, ça n'amène jamais à rien du tout. Centre hospitalier de l'Ariège, en Ariège-Couserans. C'est une grève le 1er avril en illimité avec les infirmiers, infirmières spécialisées du bloc opératoire qui demandent des effectifs et l'arrêt des coups de bistouri dans l'organisation des interventions chirurgicales, bien entendu. Demande une planification de celle-ci. Plus grave, le besoin de matériel adapté supérieur à l'existant. Ça fait peur. Fini de bosser donc avec des scies à métaux et autres clés à molette. Eh bien, ça fout un peu les jetons. 90% de motivés quand même pour ces exigences. Avec des tracts d'information, des pétitions à l'adresse du public. Le CHU bordelais maintenant, avec ici les personnels du service néonatologie. 99% de ces précisions récits de participantes, puéricultrices, infirmières, auxiliaires.
C'est qui pour... 1% du coup. Le pâté dénonce.
Pour obtenir donc 10 puéricultrices, c'est déjà très difficile à dire ce mot, alors s'il vous plaît. Donc 10 puéricultrices dans le service, demande qui date de plus d'un an. Donc marre de l'attente. 3 auxiliaires également sont exigés. Les exigences sont louables. C'est pour s'occuper des beaux bébés, entre de gros beaux bébés, entre 500 grammes et 1 kg quand même. Hein. C'est pas épais. Donc ce sont des prématurés, évidemment, vous l'avez bien compris, qui ont braillé à tue-tête. On veut des biberons. Ça, c'est moi qui l'ai
rajouté. Oui, je pense bien. Oui.
Et puis à Thian, dans le Nord, donc pour terminer cette deuxième page, avec une grève dès 4 heures du matin, qui dit mieux, je crois qu'ils ont battu un record, là. C'est chez Nidaplast, c'est des éléments tout simplement en plastique qui sont fabriqués dans cette usine. C'est le groupe Etex pour les spécialités, pour les spécialistes du plastique, donc de la matière plastique, hein, je donne cette information. Donc là encore, ce sont les NAO qui blessent l'honneur d'une quinzaine de salariés de la CGT, enfin la CGT dans le coup, et qui exige 60 euros mensuels pour tous et toutes. La direction, elle, propose 20 euros. Il y a 90 salariés. Une prime de 506 euros aussi pour des exclus suite à un arrêt maladie de plus de 30 jours. Le maintien de primes de nuit selon les accords de 2016 et l'annulation des heures retirées après un droit de retrait et attribution de la prime sur résultat. La direction appuie sur, évidemment, l'assiduité au travail, une vieille ritournelle patronale ou de directeur général, quoi, voilà. C'est tout pour ça.
Ok.
Pour ce soir.
Oui, pour ce soir, ouais. Du coup, on va faire un petit tour en Turquie. Comme vous le savez sûrement, ce week-end, donc, il y a un référendum en Turquie, voilà, en gros, pour donner encore plus de pouvoir ou pas au président Erdogan, voilà, ce qui lui permettrait de rester à peu près au pouvoir, je pense, jusqu'à sa mort. Donc c'est pour vous, voilà, j'ai trouvé un article, autant prendre à la source du coup les informations, un article sur le site Kédistan, voilà, qu'on vous conseille. Et voilà, c'est un article qui date du coup du week-end dernier, où du coup c'était le début de ce qu'on appelle la trêve électorale. Parce qu'une semaine avant le référendum, selon la constitution turque, donc c'est la première personne, c'est nous sommes entrés dans la trêve électorale. Donc c'est-à-dire que plus personne normalement n'a le droit de faire campagne pour un oui ou pour un non, sauf le président de la République, hein, qui est forcément neutre, hein, comme chacun le sait, pour son oui. Le Conseil suprême des élections donc surveille l'interdiction et veille au grain, paraît-il, on est en pseudo-démocratie ou on ne l'est pas quand même. Il faut respecter les formes. Donc selon la loi, donc le Premier ministre, les ministres et députés ne sont plus autorisés à partir, donc c'était le 9 avril, à utiliser les moyens de l'État pour la propagande, notamment les véhicules officiels, bien que contournés en remplaçant des plaques d'immatriculation des véhicules officiels par des plaques civiles. Durant cette semaine, normalement, les cérémonies protocolaires d'accueil ou de départ, d'inauguration, etc., qui sont souvent transformées en meetings de propagande, seront toutes suspendues. Les fonctionnaires n'ont plus le droit de participer aux meetings et cérémonies, mais la plus grande partie de ces interdictions ne concerne pas qui, vous l'aurez deviné, le président de la République, qui est en principe forcément neutre, hein, mais là, du coup, vous avez bien compris que c'est pas le cas. Comment croire une seconde que le Reich obéira à la Constitution alors que c'est son pouvoir absolu qui se joue ? Donc dimanche dernier était donc le dernier jour de cette campagne, un temps fort comme on dit, de grands meetings sont donc tenus dans plusieurs villes. À Istanbul d'abord, où le meeting de l'AKP, donc c'est le parti du président, a donc réuni les pro-oui, c'était le samedi, et comme ils sont dingues de tout ce qui est démesuré et peut grandir la figure du chef, c'est devant une scène géante de 16 mètres de large, 95 mètres de hauteur et pesant 600 tonnes, que les bras se sont levés, il y a eu le défilé de propos habituels devant la foule répondant par le signe Rabia, donc c'est les quatre doigts hein, représentant les quatre piliers de l'islam, mais c'est aussi le signe des loups, des ultra-nationalistes. Le HDP, lui, donc, est le parti kurde progressiste, a fait son meeting pour le non le même jour. Sur la rive asiatique d'Istanbul, un des quartiers bastions du CHP, le Parti Social Libéral, issu du kémalisme. Couleurs, drapeaux, chansons et forcément non, non, non et non à ce référendum. Maintenant, nous allons donc attendre et voir bientôt comment ça va se dérouler en pratique un référendum sous état d'urgence. Comment cela va se traduire dans cette ambiance tendue à mort, avec des centaines de personnes opposantes licenciées, des milliers en prison, y compris 150 journalistes, auteurs, avocats, avocates, universitaires et politiques, particulièrement les femmes et hommes du HDP, une douzaine de députés dont les co-présidents, présidents du parti, des responsables, en totalité environ 5000 membres à tout niveau. Lors de la campagne, nous avons entendu plein de chansons pour le nom, dont celle du HDP qui a été vite interdite parce qu'elle était en kurde. Nous avons vu des personnes distribuant des tracts arrêtés ou agressés au choix. Pour le nom, souvent la trêve électorale avait de l'avance dans ces interdictions. Dans les derniers jours, des appels pour le nom se sont pourtant multipliés avant la clôture. Des appels de différents groupes, corporatifs ou militants, de femmes, d'universitaires, de politiques, d'intellectuels, de personnalités, d'organisations, de syndicats qui se sont rejoints pour le nom. On a même entendu enfin la voix de ceux et celles qui étaient restés relativement silencieux et qui ont fini par inviter à minima à ne pas s'abstenir et à voter. C'est déjà ça et mieux que rien. Quelques voix se sont aussi levées, venant de l'AKP même, pour annoncer publiquement leur refus du projet de présidentialisation d'Erdogan et expliquer leur motivation. Le fait qu'à l'intérieur de l'AKP, tout le monde n'était pas d'accord pour le sacre du Reich, c'était déjà un secret de polichinelle. Plusieurs députés avouaient discrètement et sous anonymat avoir levé la main pour le oui par crainte, mais que le cœur et la raison n'y étaient pas. Le ministre d'Intérieur, qui s'appelle Süleyman Soylu, a déclaré que parallèlement au 251 788 policiers et 128 445 gendarmes qui seront déployés le jour du référendum le 16 avril, 17 000 employés de sécurité bénévoles seront de service. C'est certainement, et c'est ironique, hein, pour éviter que les chats n'entrent sournoisement dans les transports pour provoquer des coupures d'électricité, encore une fois, lors des dépouillements. C'est bien très pratique. Le ministre a annoncé aussi que ce jour-là, tous les lieux de loisirs seront fermés et que dans les restaurants, la vente d'alcool ne serait pas autorisée. 150 urnes seront disposées et 55 319 222 électrices et électeurs auront la possibilité de dire oui, non ou merde. Je me demande maintenant comment ça se déroulera un référendum sous état d'urgence dans les villes kurdes saignées, détruites, rasées et vidées de leur âme, telles que Nusaybin, Cizre, Silopi, Sur, Sirnak, Silvan parmi d'autres, ou encore dans des municipalités dont les mairies ont confisqué alors élus par le peuple, dans les quartiers où il n'y a plus de maison, où seront disposées les urnes, avec quelle liberté et quelle confiance, énergie et motivation les populations dont on a cassé les toits sur la tête et qu'on a forcé à l'exode ou condamné au temps iront-elles voter ? À mon âge, mes pieds ne me portent plus très loin, mais partout où je passe, les murs immenses sont occupés par le Reich, donc par Erdogan, hein, dont le portrait orné d'un énorme Evet, qui veut dire oui, me regarde. Ces éléments de campagne géants du président de République, forcément neutre, omniprésent et omniscient, seront-ils retirés maintenant qu'on est dans l'interdiction ? Les télés, voix de son maître, arrêteront-elles de se dépêcher d'établir des directs, entre guillemets, même quand il commence à parler dans son sommeil ? J'ai des doutes. À l'étranger, les urnes sont closes. 1 241 000 ressortissants turcs ont utilisé leur droit de vote, parfois dans des conditions questionnantes, passant par des urnes disposées dans des locaux d'associations religieuses ou mosquées, prétextant l'exiguïté des locaux de consulats, allant jusqu'à des heurts où des couteaux haineux parlent plus facilement que les bulletins, comme à Bruxelles, où un couteau est allé trancher la gorge de Sultan Ugras et blesser gravement cette femme kurde de 66 ans, une battante connue et appréciée dans la communauté kurde sous son surnom d'Aïka, qui veut dire maman. Et pour clore la période de campagne, une dernière étincelle de campagne a jailli à Sartre-et-Blain, vous savez, en France, à Nantes, hier soir, donc c'était en fin de week-end, un incendie criminel, selon la police forcément, a consumé le centre culturel kurde. Alors d'ici le 16 avril, on peut encore avoir quelques surprises durant la trêve électorale et le matin du 17, se réveiller avec dans la bouche un goût de cendre. Voilà, on va surveiller ça, ce qui se passe ce week-end en Turquie, voilà, mais ce qui risque d'arriver risque de faire très très mal. Du coup j'enchaîne un petit peu, on a encore 5 minutes.
Tout à fait.
Eh ben j'y vais, je voulais vous parler... Alors... Hein. Pardon ?
Je peux lire sur l'horloge.
Non mais c'est toi qui dirige tout ici, on est obligé de te demander avant, toi, tu peux nous couper les micros, tu peux lancer le générique, tu vois, tu peux faire plein de choses. Voilà, sur un communiqué de juives et juives révolutionnaires, c'était par rapport à un rassemblement qui s'est tenu le 1er avril dernier à Paris. Donc, rassemblement, c'était contre la politique de la France à l'égard d'Israël. À l'initiative du collectif Euro-Palestine, son mot d'ordre était « pour la séparation du CRIF et de l'État ». Son slogan est loin d'être un simple appel à la solidarité avec le peuple palestinien. C'est un cas d'école d'antisémitisme. Le sous-entendu est clair. Le CRIF, donc Fédération d'Institutions Juives Françaises, aurait un pouvoir décisionnaire et l'État leur rendrait des comptes. On s'inscrit ici dans la lignée des thèses complotistes de type protocole des sages de Sion, attribuant aux juifs et juives un pouvoir global fantasmé. Ce mot d'ordre implique également que le soutien français à la politique de l'État Israël procède d'une proximité avec la minorité nationale juive, plutôt que de ses intérêts économiques et politiques à faire alliance avec le gouvernement israélien. Là encore, on projette sur cette minorité nationale un pouvoir qu'elle n'a pas. Nous sommes opposés à l'orientation majoritaire du CRIF, mais nous dénonçons toute critique antisémite du CRIF. Au-delà de ce simple slogan, certains groupes signataires de l'appel incitent aussi à la circonspection. On y trouve notamment le PIR, hein, qui n'a plus à être présenté, ainsi que le Cercle des volontaires, un média au discours confusionniste, conspirationniste et antisémite, et qui compte parmi ses responsables Bruno Drewski, un défenseur du penseur négationniste Forisson. On peut également rappeler les antécédents du groupe Europalestine lui-même, précédemment proche de Dodionné. Si cette alliance est aujourd'hui désavouée par Olivia Zemmour, la présidente d'Europalestine, qui a dénoncé l'antisémitisme de l'humoriste, celui-ci ne rechigne pas en revanche à accorder des interviews au Cercle des volontaires. Nous nous interrogeons sur l'implication de personnes et de groupes comme Christine Delphi ou la France Insoumise aux côtés de telles organisations. La rhétorique complotiste constitue l'un des principaux ressorts de l'antisémitisme et nous nous inquiétons vivement de sa pervasivité au sein du discours antiraciste et anticapitaliste. Nous déplorons également que la seule opposition vocale à ce rassemblement émane du CRIF et de la LDJ. Nous nous refusons à choisir entre la solidarité avec l'extrême droite juive ou non et la complicité avec l'antisémitisme de droite ou de gauche. Nous ne laisserons pas à l'extrême droite l'apanage de la lutte contre la haine anti-juive. Au lieu de ça, nous défendons une gauche radicale qui ne tergiverse pas sur l'antisémitisme. Nous combattons une logique de division qui profite directement à l'État et nuit à toutes les minorités. Donc voilà pour ce communiqué du coup de juive et juifs révolutionnaires.
Ouais.
T'as emmerdé là, hein. Je sais plus quoi dire. Hein.
Moi j'ai plus rien sur mon fil.
Non, hein, bah, je finis vite fait éventuellement avec la Hongrie. Prêt, hein. On y reviendra peut-être sur un peu plus longuement d'autres fois. Voilà, avec bon, vous êtes au courant, Hongrie, hein, c'est pas folichon non plus, avec notamment Orban là, au pouvoir, et qui a décidé donc, lui, les projets de loi qui s'empilent, hein, et donc celui-ci, eh ben, veut obliger les associations, notamment les ONG, à révéler le nom de leurs donateurs étrangers. Alors en fait la tactique elle est simple, hein, c'est essayer du coup d'empêcher ces financements là, hein. Il s'agit uniquement de trouver un moyen de stigmatiser ceux qui effectuent encore un travail d'opposition à un pouvoir exécutif n'ayant plus de concurrents politiques sérieux. Voilà, donc le récit du parti au pouvoir consiste à dire que tout ce qui vient de l'étranger influence négativement la vie des Hongrois, et donc du coup si on pouvait éviter ces financements, ce serait pas mal. Si évidemment leur nom doit apparaître sur une liste noire consultable en ligne, on peut imaginer que dans certains domaines les donateurs s'abstiendront désormais, par exemple concernant les droits des minorités sexuelles. Le gouvernement fait référence à un exemple américain, mais c'est bien la loi russe de Vladimir Poutine adoptée en 2006 qu'il copie aujourd'hui. Puis du coup c'est pas tout, parce qu'il y avait eu une grosse manif ce dimanche en Hongrie aussi, voilà, qui a promulgué une autre loi donc qui menaçait notamment l'université Soros. Il y a eu une importante mobilisation, mais qui n'a pas eu raison de la loi malheureusement, puisque le président hongrois, voilà, a promulgué, c'était lundi, une loi considérée, voilà, comme dirigée contre l'université d'Europe centrale, CEU en anglais, financée par le milliardaire américain d'origine hongroise, George Soros. Donc voilà, encore des mesures de restriction et de privation de liberté en Hongrie. Ce que je propose, c'est qu'on va finir tranquillement on va rappeler comme d'habitude, il y a un article qui va bientôt ressortir notamment sur Rebellion et ailleurs, officiellement, pour bien relancer la campagne de dons pour les migrantes et les migrants, donc on vous balancera de nouveau l'info sûrement la semaine prochaine. Elle est officiellement lancée, hein, c'est juste, oui, elle officiellement, mais du coup on va faire la com lundi, du coup les cours de langue toujours à 18h30, les permanences mercredi 17-19h, samedi 15h-19h au 8 rue Diderot à la Pluie Noire. Et puis du coup une dernière annonce, c'est ce week-end du coup que ça se passe.
Donc c'est ce week-end
C'est ce week-end, ouais, où ça, hein, à Ventimille.
À Ventimille, donc à la frontière franco-italienne, donc vers Menton en France, Ventimille. Donc ce week-end il y a un week-end d'action, donc samedi il y aura des activités et des actions qui ne sont pas encore... on ne sait pas trop encore ce que c'est. Et dimanche, une manifestation plutôt festive, tranquille, en soutien aux migrants. Donc, ce week-end à Ventimille.
Ouais, sûrement le but de relancer un petit peu la dynamique qui avait lieu l'année dernière avec ce camp No Border qui s'était installé et qui avait donné la parole aux premières concernées.
Ouais, donc pour la localisation à Ventimille, frontière franco-italienne, t'as pas rappelé que c'était en Italie, du coup, du côté de Nice, tout ça, là, par là-bas.
Donc si vous n'avez pas beaucoup milité là-bas, vous n'êtes pas encore interdit de séjour là-bas, vous pourrez y aller, mais vraiment pour ceux qui ont été.
Non, mais on peut y aller sans être interdit de séjour tout de suite. Hein, ouais.
On n'a pas été interdit.
Non, mais il y en a certains du coup qui l'ont été, qui ne pourront pas y retourner voilà.
Facilement. Du coup, on va vous laisser.
Voilà.
Je pense.
Et puis on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bonsoir à tous.
À la semaine prochaine, bonne soirée.
Salut.
Au revoir.
Salut, salut.
Au revoir.
Je vais comprendre ça.